Question d'Islande par Al Ben Sheikh. Aujourd'hui, nous parlons du langage du cœur dans le cadre de la voie soufie. Le soufisme, nous lui avons consacré quelques émissions. Aujourd'hui particulièrement, c'est un maître soufi qui nous accompagne tout au long de l'émission. J'aurais à vous poser, Abdelhafid Ben Souk, des questions à propos de cette voie spirituelle dans le cadre de la tradition religieuse islamique. Bonjour.
Bonjour, Raleb. Merci pour cette invitation qui nous honore.
Je vous en prie, bienvenue à vous. D'abord, je vous ai présenté tout de suite comme étant un maître soufi. Vous allez nous dire qu'est-ce que c'est qu'être un maître dans le soufisme. Vous dirigez la maison soufi, qui se veut un espace d'échange culturel, de création artistique, d'élévation spirituelle. Et vous êtes aussi cofondateur du Festival Soufi de Paris, ce qui vous donne beaucoup d'activités. Et vous enseignez à vos disciples le langage du cœur. Donc ce sont autant d'éléments et de thèmes qui nous servent de base de discussion ensemble. Mais avant tout, qu'est-ce que c'est qu'être un maître soufi ?
Alors merci de poser cette question qui effectivement m'a posé à moi-même beaucoup de questions. Puisque dans la genèse de cet ouvrage, ce titre, « Méditer avec un maître soufi » qui m'a été proposé par les éditions Hachette, au départ je n'étais pas pour, et vu leur insistance, donc j'ai fini par céder.
On obéit toujours à son éditeur.
Tout à fait, et d'autant plus qu'il avait de bonnes raisons, vu que cet ouvrage est sorti en même temps qu'un autre ouvrage sur les sagesses bouddhistes, donc de notre ami Federico Procopio, donc « Méditer avec un maître zen ». Et donc j'ai mis en parallèle un petit peu le parcours de Federico, qui se trouve être un maître zen, mais le qualificatif de maître zen, en étudiant bien, j'ai compris qu'il était l'équivalent du représentant de la voie soufie, le Mokaddem, dans une voie soufie. Et donc je me suis dit, effectivement, dans le langage courant en France, maître n'a pas la même signification que dans le monde traditionnel. Effectivement, le maître soufi, moi-même je suis disciple d'un maître soufi, et j'ai été disciple longtemps d'un autre maître soufi qui est le père du maître soufi actuel. Et donc je ne me considère pas comme un maître, mais néanmoins, pour ceux qui suivent nos enseignements, il y a une certaine maîtrise qui nous est donnée, en quelque sorte, par notre ancienneté et par les activités que l'on mène, et qui fait qu'on peut aussi se dire ou s'entendre dire maître.
Cette maîtrise dont vous parlez est transmise donc de maître à disciple. Ça peut être une filiation biologique, comme ça peut être une filiation spirituelle.
Tout à fait. Il n'y a pas d'exclusive dans le soufisme. La filiation n'est pas simplement biologique, c'est-à-dire qu'elle ne s'hérite pas de père en fils, bien que ce soit le cas assez souvent. Pour exemple, notre maître Maulana Sheikh Nazim a donné la maîtrise...
Au représentant de la confrérie Naqshbandi.
Voilà, qui est décédé en 2014, à son départ, a nommé son fils comme successeur, bien que son fils ne voulait pas de cette charge. Et par contre, lui-même a été le successeur d'un maître qui s'appelle Cheikh Abdallah Daristani, qui est enterré à Damas aujourd'hui, qui n'était pas du tout de sa famille.
Et comme son gentilé l'indique, il était du Daghestan.
Tout à fait.
Vous avez suivi les enseignements donc du maître Nazim, Cheikh Nazim, pendant un quart de siècle.
J'ai eu cette chance, effectivement, de le suivre pendant 25 ans, d'essayer de comprendre ce qu'il voulait nous faire prendre conscience, ce dont il voulait nous faire prendre conscience. Et ça ne passait pas forcément par des mots. C'est ça qui est intéressant, c'est que les maîtres soufis utilisent parfois, pour revenir au titre du livre, un langage, mais qui est au-delà du langage intellectuel, du mental. Et effectivement, ils vont faire beaucoup de discours, mais leurs discours sont comme le support d'une énergie qu'ils vont transmettre. Et ce qu'ils vont dire n'est pas autant important que le fait d'être avec eux et de se s'imbiber de leur état, si j'ose dire.
Oui. Peut-être encore deux autres mots sur cette affaire de la relation de maître à disciple. On a connu dans l'histoire l'exemple de l'émir Abdelkader comme mystique et lui-même un soufi, disant qu'il a reçu en songe l'investiture spirituelle d'Ibn Arabi. Pourtant, plusieurs siècles les séparent. L'un est mort en 1883, alors que son maître, dont il dit qu'il l'avait inspiré, enseigné, est mort en 1240.
C'est très intéressant, le sujet que vous soulevez, puisque l'émir Abdelkader est né dans une famille Kadiri. Donc c'est une confrérie qui est reliée à Abdelkader Jilani, qui est du XIIIe siècle. Mais lors d'un voyage à Damas, il rencontre un grand cheikh qui s'appelle Maulana Khalid. Et Maulana Khalid, qui était Naqshbandi, dans la même voie spirituelle à laquelle j'appartiens, lui a remis aussi, en plus de ce songe, ce qu'on appelle la khirqa, le manteau akbarien. Donc il y a eu comme une investiture à la fois en songe, mais il y a eu aussi un élément matériel qui a concrétisé cette investiture. Et on dit qu'à la fin de sa vie, il a aussi pris la voie Chazili, qui sont donc les trois grandes voies. Maintenant, on parle de Kadiri, Naqshbandi, Chazili, avec le cheikh El-Fassi, qui l'a enseigné alors qu'il avait 65 ans. Donc, effectivement, il a reçu en songe, mais ça ne l'a pas empêché d'avoir une lignée concrète, en quelque sorte. Bien.
Toujours sous votre contrôle, hein, Abdelhafid Ben Chouk, le même Ibn Arabi, Docteur Maximus, chez les auteurs latins, le plus grand maître ou le plus grand métaphysicien pour certains de tous les temps, dit qu'il a reçu lui-même l'investiture spirituelle d'un maître mystérieux. Le Coran y fait allusion, ce qu'on appelle généralement, mais je ne suis pas sûr que la traduction soit bonne, le maître verdoyant, Al-Khadir, parfois identifié au prophète Élie. Comment cette affaire aussi peut se faire? On reçoit une investiture spirituelle d'un personnage cité dans le Coran.
Et qui est mystérieux et qui, dit-on, est vivant à chaque siècle. Effectivement, le soufisme va nous aider ou nous permettre de dépasser notre humanité. Pascal disait « l'homme passe l'homme ou passe infiniment l'homme ». Et effectivement, le soufisme va nous aider à aller au-delà de notre rationalité. Non pas pour aller vers l'irrationnel, ce qui serait un non-sens, puisque ce qui n'est pas rationnel n'a pas de sens, mais vers le suprarationnel. Il va nous permettre, cette voie soufie va nous permettre de comprendre qu'il y a quelque chose qui nous dépasse infiniment et que l'on ne peut pas embrasser juste avec notre compréhension mentale. Et donc là, il va y avoir comme un choc émotionnel, intellectuel qui va se passer avec le cœur. C'est le cœur qui va pouvoir comprendre ce qui est de nature non rationnelle.
Oui. Vous avez évoqué le cœur. Le cœur n'est pas que cet organe dont nous avons tous besoin nécessairement et heureusement durant notre vie dans ce bas monde. Mais il est aussi, chez les mystiques musulmans, l'organe de perception par excellence. Donc quand vous parlez du langage du cœur, c'est un langage perçu particulièrement par ceux qui y sont sensibles. C'est quoi cette affaire du langage du cœur ?
Voilà, on va revenir à la genèse du livre. Le titre m'a été proposé par les éditions Hachette.
Et c'est encore vrai que... Encore une fois, les éditeurs qui sévissent.
Tout à fait. Mais c'est un titre qui est heureux et que j'ai accepté avec joie, puisqu'il exprime l'idée que tout ne passe pas par les mots. Et c'est ça qui est vraiment l'essentiel de la transmission dans la voie soufie. Ce que je veux dire, c'est que le maître est parfois loin, comme Maulana Cheikh Nazim était parfois proche de nous, mais parfois loin, et il n'empêche que sa guidance agit toujours. Mais, comme le dit Michel Chodkiewicz dans un de ses ouvrages, au final, bien sûr, c'est toujours Dieu qui guide. Il n'y a pas d'autre guide que Dieu. Mais Dieu a des causes secondes, et ces causes secondes ont une action malgré la distance, malgré le temps qui peut nous séparer d'eux. Et ça dépend de notre réceptivité aussi. Si on accepte cette idée, si on s'ouvre à cette idée, alors ça peut agir en nous. Mais si on ne l'accepte pas, bien sûr, on se ferme tout de suite cette possibilité.
Cher Abdelhafid Benchouk, je vous écoute avec beaucoup d'intérêt. Je me fais simplement le devoir de vous poser la question. Ne pensez-vous pas que lorsque vous parlez d'une approche suprarationnelle, que ceci risquerait, j'utilise le conditionnel à dessein, de fragiliser certains esprits alors qu'on a besoin plutôt d'approches sensée, rationnelle, objective? Ai-je tort ou raison de poser la question? Mais je vous la pose.
Non, vous faites bien de la poser, bien au contraire. Et l'ouverture au monde suprarationnel n'exclut absolument pas la compréhension rationnelle et l'explication des phénomènes, puisque les phénomènes qui font partie du monde, on va dire, qui est invisible à nos yeux, obéissent aussi à des lois. Donc tout est explicable et tout est, je ne vais pas dire vérifiable, puisque parfois il s'agit d'expériences, mais nous avons, pour les gens qui ont besoin de comprendre les choses rationnellement, et c'est normal puisque nous sommes des êtres humains, nous avons un corps et nous sommes ancrés dans ce monde, il y a effectivement des ouvrages... notamment Ibn Arabi, qui a fait une somme extraordinaire avec les Futuhat al-Makkiya, donc les révélations de la Mecque.
Ou les conquêtes spirituelles de la Mecque,
où il a passé en revue tous les aspects possibles et imaginables du cheminement spirituel, du questionnement des disciples, qu'ils soient rationnels ou suprarationnels. Donc, de croire au suprarationnel n'empêche pas de partir du rationnel. On ne peut pas. D'ailleurs, la théorie est une nécessité avant même de cheminer. On a besoin de comprendre. Et moi-même, dans mon cheminement, je tiens à le signaler, si je n'avais pas lu l'œuvre de René Guénon, qui est, on va dire, quelque chose de tout à fait intellectuel au sens noble du terme, je n'aurais pas pu me lancer dans la voie soufie. J'avais besoin de comprendre avec mon mental avant même de m'élancer dans les sphères.
Abdelhafid Benchouk, pardonnez-moi de vous poser la question directement. Qu'est-ce qui vous a incité, inspiré, poussé à vous lancer, comme vous dites, dans la voie soufie? Si je vous pose la question, parce que de nos jours, certains musulmans ne pouvant plus assumer leur islamité dans un contexte hostile, de violence, où leur propre tradition religieuse pervertie et avilie, devenue synonyme d'épouvante, disent, vous savez, moi je suis soufi. Ce qui engendrera par la suite chez les non-musulmans le fait de les trouver plutôt des gens bien, en tout cas pour la plupart d'entre eux, s'il m'est donné de pouvoir cautionner ainsi par ma parole, disons, les musulmans sont plutôt infréquentables, en revanche les soufis sont formidables. Comment vous situez-vous dans ce contexte général ?
Donc, il y a deux questions sur mon cheminement au départ et le contexte actuel. Donc, sur mon cheminement, je vais vous révéler un petit peu mon expérience, mes premiers pas dans le soufisme. J'ai cherché, avant d'être musulman, tiens, je vais choquer un petit peu les auditeurs, d'être musulman vraiment, puisque j'avais hérité de cette tradition, mais personne ne m'a forcé dans ma famille. Et donc c'était ouvert pour moi. Je me suis intéressé au christianisme, je me suis intéressé à l'hindouisme, j'ai lu le livre des égarés de Maïmonide, je cherchais, tout simplement. Je cherchais, et je ne trouvais pas. On va dire que je trouvais dans les philosophies orientales, j'ai lu Lao Tzu également, mais il y avait comme un écho qui manquait. Et au cours d'un voyage, j'ai rencontré un homme une fois, dans un train, et en discutant avec lui, c'était un homme qui avait vraiment un beau verbe, donc je me suis dit, je vais lui demander ce qu'il pense de la religion. Et cet homme-là, qui était chrétien, me dit, à mon avis, tu devrais t'intéresser à la tradition dans laquelle tu es né. Et c'est ce qui m'a fait un choc, que ce chrétien me pousse à aller vers l'islam. Je me suis dit, c'est extraordinaire. Et donc là, j'ai été un peu plus loin. Et j'ai commencé à lire Al-Ghazali. Je me rappelle de journées passées à Beaubourg, dans la magnifique bibliothèque de Beaubourg, à lire tous les ouvrages. Et petit à petit, le soufisme m'est paru comme le seul islam possible. Puisque je rencontrais dans mon quartier des gens qui venaient prêcher, qui me disaient « viens avec nous », etc. Et j'ai grandi à Paris, hein, juste pour vous situer, dans le 11e arrondissement. Et donc il y avait une mosquée
pas loin de la rue Jean-Pierre Timbaud.
Voilà, pas loin, un peu plus bas, moi, boulevard du Temple à République, mais effectivement c'était la même zone que les librairies musulmanes actuellement et la mosquée. Mais ça ne me parlait pas.
Signalons pour nos amis auditeurs qu'il s'agit ou il s'agissait en tout cas d'un foyer, notamment pour la
prédication.
La prédication. Foi et pratique.
Exactement, c'est le mouvement qu'on appelle tablir, oui. Exactement. Et donc j'avais croisé ces gens-là, mais ça ne me parlait pas. Et en lisant les ouvrages d'Al-Ghazali, là d'un coup, il y a quelque chose qui s'est passé. J'ai vraiment vu qu'il y avait une profondeur dans cette religion qui était la mienne ou celle de mes parents. Et donc j'ai commencé à m'y intéresser davantage. Et comme je le disais tout à l'heure, le déclencheur final qui m'a décidé de m'engager dans la voie soufie, ce sont les lectures de René Guénon, notamment les ouvrages « Initiation et réalisation spirituelle » ou « Aperçu sur l'initiation ».
C'est l'Al-Ghazal des latins, le Ghazali mystique ou le Ghazali théologien, et qui a utilisé même, ne serait-ce que pour réfuter les philosophes des moyens de philosophie, qui vous a intéressé dans l'œuvre considérable d'Al-Ghazali.
Non seulement, effectivement, son mode d'expression que vous rappeliez à l'instant philosophique m'a beaucoup touché, mais de plus, son expérience personnelle, puisque je peux dire que moi-même, j'étais dans une crise d'identité, c'est-à-dire de recherche, qu'est-ce que je fais sur cette terre. Donc c'est vraiment un questionnement métaphysique qui m'a mené au soufisme. Ce n'est pas par la compagnie ou parce que mes parents m'ont poussé dedans ou autre. C'est vraiment un questionnement métaphysique très profond que j'avais depuis mon jeune âge. Je me souviens que j'avais 5 ans ou 6 ans, je me posais la question, qu'est-ce qui se passe après la mort? Et donc, après cette lecture de René Guénon qui me... Justement, comme vous le disiez tout à l'heure, qui m'a donné toutes les raisons rationnelles de me rattacher au soufisme. Là, j'ai engagé en cette recherche d'un maître soufi.
Oui. Là, c'est la réponse directe à la question que je vous ai posée et je vous en sais gré. Maintenant, à propos du contexte ambiant.
Dans le contexte ambiant, le soufisme est une nécessité vitale pour l'islam. Pourquoi une nécessité vitale ? Parce qu'il va nous transmettre un enseignement qui est sûr. Sûr à quel niveau ? Comme vous le savez, les maîtres soufis reçoivent une autorisation d'un maître qui les précède, et ce maître qui les précède...
Donc ils ont une licence.
Voilà, une licence, de licence en licence jusqu'au prophète. Donc c'est une garantie que l'enseignement prophétique va passer tel qu'il a été révélé, en tout cas vont essayer de faire passer tel qu'ils l'ont reçu eux-mêmes de leur maître, qu'il a reçu de leur maître jusqu'au prophète. Et c'est le problème actuel, c'est que les lectures des théologiens du passé sont à la mesure de ceux qui les interprètent. Le cheikh Al-Alaoui répondait à quelqu'un qui lui avait rétorqué, comme on le rétorque aujourd'hui à certains musulmans, on nous dit « mais moi je suis le Coran et la Sunna ». Vous avez beaucoup entendu ça, donc le Coran, le livre coranique, la Sunna, la tradition.
« Je suis », c'est du verbe « suivre ».
Oui, voilà, et la Sunna, donc c'est la tradition du prophète, les habitudes du prophète. Et le cheikh Al-Alaoui, qu'est-ce qu'il lui a répondu ? Donc le cheikh Al-Alaoui du XXe siècle lui a répondu « ne dis pas que tu suis le Coran et la Sunna ». Tu suis ce que tu as compris du Coran et de la Sunna. C'est pour cela que je vous disais que les interprétations des livres aujourd'hui se font à la mesure de celui qui les explique. Et vu qu'on a affaire à des gens, malheureusement, vraiment je regrette de le dire, qui ont une vue étriquée, donc on se retrouve avec un islam étriqué. Et la garantie qu'offre le soufisme... Ce n'est pas seulement cette lignée, mais c'est aussi qu'ils sont le porteur de ce souffle vivant, d'amour, de beauté, de partage. Il y a dans le soufisme un enseignement de compagnonnage, on en parlait tout à l'heure, qui peut nous montrer comment agir par l'exemple. C'est ce que je dis dans mon livre. Le cheikh Nazim, à la fin je lui dédie, ainsi qu'à mes enfants, mes parents et autres, ce livre... Je dis que cheikh Nazim a réussi à m'apprendre des choses sans jamais rien me dire, juste avec le regard, juste par son exemple. En fait, la crise qu'il y a aujourd'hui, c'est une crise d'exemple, d'exemplarité. On a besoin d'un exemple de bienséance, un exemple de générosité, un exemple de quelqu'un qui va vous accepter tel que vous êtes. Aussi. Et les gens aujourd'hui, combien de personnes, vous parliez de la maison soufie tout à l'heure, me disent merci d'avoir ouvert cet espace parce qu'on ne peut plus, on ne peut plus aller dans les mosquées, on nous regarde bizarrement. Les gens sont habillés, ne sont pas forcément avec leur foulard, ou ne sont pas. Donc ils ont besoin d'un espace et le soufisme. En tout cas, certains soufis, puisqu'ils ne sont pas tous les mêmes. Certains soufis, certaines maisons soufis, c'est le cas de le dire, offrent cet espace d'ouverture et on espère que ça ira grandissant puisque cet espace d'ouverture est devenu nécessaire du fait de la mondialisation du monde, de notre monde qui est devenu un village. Oui. Nous sommes tous obligatoirement amenés à nous rencontrer. Donc si on n'accepte pas l'autre dans sa différence, on ne peut plus vivre dans ce monde.
Nous sommes sur France Culture dans l'émission Questions d'Islam avec Abdelhafid Benchouk, maître soufi, auteur de l'ouvrage Le langage du cœur. Nous évoquons ensemble cette transmission, pas avec une parole disciple, mais de symbole, de ce regard. Et qui laisse place à la compassion, à l'amour. Et vous nous disiez à l'instant, Abdelhafid Benchou, que la maison soufie que vous dirigez se veut aussi un espace de liberté. Alors vous parlez de ces femmes qui viennent non voilées. Ne nous faisons pas une fixation. Ça veut dire que le maître mot est la liberté.
Tout à fait. Et je dirais qu'il n'y a pas que des musulmans même qui viennent à la maison soufie. Il y a certaines personnes chrétiennes, certaines personnes qui viennent découvrir. Est-ce qu'on peut venir tel que l'on est? Et à chaque fois, on utilise ces fameuses paroles de Rumi. Viens, 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 tel que tu es, même si tu as rompu 100 fois tes serments, viens quand même, car notre maison n'est pas la maison du désespoir. Le monde d'aujourd'hui a besoin d'espoir. Et pour revenir sur l'exemple, j'ai rencontré il y a quelques temps une dame extraordinaire qui s'appelle Zaya Ziwani, qui est chef d'orchestre.
Oui.
Et son expérience, qu'est-ce qui l'a poussée à devenir chef d'orchestre? C'est la rencontre avec un homme. Un homme qui était lui-même chef d'orchestre et qui l'a transformé. Donc on a toujours besoin de cette rencontre avec des hommes réalisés ou partiellement réalisés, puisque on ne va pas se prétendre d'être des hommes réalisés, mais partiellement réalisés pour
Parce
soi-même.
Que la perfection n'est pas de ce monde.
Tout à fait, la perfection n'appartient qu'à Dieu. C'est même notre fierté que d'accepter notre imperfection. Dieu lui-même dit que si vous ne péchiez pas, je susciterai un autre peuple qui pêche afin que je puisse lui pardonner. Donc l'être humain qui se sentirait impeccable serait sorti du giron du soufisme.
Et donc la vocation de l'homme et de la femme bien entendu, c'est de tendre, fût-ce asymptotiquement, à devenir cet homme parfait, idéal, complet. Si je devais parler grec, je dirais l'anthropos teleios, c'est l'homme final finalement.
Quel est cet homme final? Quelle est cette femme finale? C'est celui ou celle qui laisse les qualités qui sont en sommeil en chacun de nous s'exprimer. Nous avons tous des qualités, des envies de donner, des envies de partager, mais nous les empêchons de s'exprimer bien souvent à cause de notre mental. Et c'est là où le mental parfois nous joue des tours, c'est que on va rester en animosité avec quelqu'un des jours et des jours parce qu'on ressasse, alors qu'au fond de nous on a envie de pardonner, on a envie d'être bon. Et donc c'est juste laisser cette bonté qui est d'origine divine, selon nous en tous les cas, la laisser couler à travers nous, à travers nos actes.
Abdelhafid Benchouk, lorsque vous dites il faut bien, ou lorsque les voiles de l'ego se lèvent ou se dissipent ou sont dégagés, c'est la lumière de l'esprit qui vient briller, illuminant tout l'être. C'est cela le langage du cœur, ou une partie, un fragment du langage du cœur?
Le langage du cœur. Un fragment du langage du cœur, vous faites bien de le dire, puisque comment définir le langage du cœur, ça n'est pas possible, bien sûr. C'est d'être en connexion avec le cœur de l'autre, d'être un avec l'autre. Et là, on...
Palpiter, faire en sorte que la palpitation de l'un résonne, entre en résonance avec la palpitation de l'autre, si je puis dire.
Tout à fait. Le prophète lui-même ne dit-il pas... Si un des membres de ma communauté a mal, l'autre doit aussi avoir mal. Si quelqu'un ne mange pas à sa faim, dans une maison, dans un environnement, si ton voisin ne mange pas à ta faim, comment peux-tu dormir tranquille?
Mais là, c'est étendu à l'ensemble des humains. La communauté n'est pas que la communauté musulmane. Donc...
Alors là, vous touchez un domaine qui m'intéresse beaucoup, et c'est la vision justement d'Ibn Arabi sur le concept de communauté mohammedienne. Et j'ai lu avec grand plaisir des traductions de Monsieur Michel Chodkiewicz à nouveau.
Qui est une référence dans le domaine, et sa fille Claude Adas.
Tout à fait. Et donc, dans un des ouvrages que j'ai lu, il disait que Ibn Arabi dit que la communauté de Mohammed, mohammedienne donc, s'étend depuis la venue du prophète jusqu'à la fin des temps. Ça me plaisait, mais ça ne me satisfaisait pas totalement. Il y avait un pincement au cœur. Et récemment, dans une traduction de Claude Hadas, dans un livre qu'elle vient d'écrire où il y a des traductions partielles d'Ibn Arabi, elle prend d'autres passages d'Ibn Arabi où il dit que la communauté mohammedienne, c'est depuis Adam jusqu'à la fin des temps. Et donc là, ça englobe toute l'humanité, effectivement.
Oui, mais n'y a-t-il pas le danger de considérer que les autres qui ne sont pas encore musulmans, qui n'ont pas suivi la prédication mohammedienne, sont des...
potentiels.
Ou même des musulmans qui s'ignorent.
Là, on va aller sur le terme musulman. Et ça, c'est très intéressant que vous ayez vu.
Celui qui se remet à Dieu.
Voilà. Et là, tout est un problème. Et un grand problème est dans les traductions, et notamment dans ce mot de musulman, qui a été relié à la religion de l'islam. Mais comme je le dis parfois lors de nos séances le jeudi soir, c'est au-delà d'une religion. Ce qu'on est venu chercher, ce qu'on cherche au fond de nous, et c'est pour cela que vous-même, Ghaleb Benchir, vous n'êtes pas satisfait avec cette définition, c'est au-delà de la religion. Et le soufisme et l'islam est au-delà de l'islam.
J'entends bien. Tout déiste, tout être qui se remet à Dieu est considéré étymologiquement et spirituellement comme musulman. Mais que faire pour ceux qui ne croient pas? Parce que la communauté des hommes, elle est au-delà de ceux qui sont reliés au divin. Et donc s'il doit y avoir un sentiment d'amour, de miséricorde, de bonté qui embrasse la totalité des humains dans une approche universelle, c'est par-delà les appartenances confessionnelles.
Tout à fait. Et là, vous touchez du doigt la doctrine de Wahdat al-Wujud, de l'unicité de l'être. Pourquoi on aurait cette compassion pour tous les êtres humains? Ce n'est pas par un acte moralisateur qui nous pousserait à se forcer à aimer les uns les autres. Non. Quand le prophète s'est fait caillasser, pour employer un terme un peu trivial, il s'est retourné vers eux et dit « Pardonne-leur, mon Dieu, car ils ne savent pas
ce qu'ils font. »
Ils ne savent pas. Donc il y a une histoire de connaissance. Il y a une histoire de connaissance. Celui qui voit la réalité comme réalité, selon le soufisme, voit par-delà le voile de la dualité qu'il n'y a que Dieu qui agit. Qu'aucun être n'a l'être par lui-même. Et donc, par respect pour la présence divine, il va agir en conséquence avec tous les êtres.
Bon, alors nous sommes dans une logique qui se veut universelle, ou en tout cas universalisable, à l'ensemble des êtres humains et au-delà même à la création. Et donc c'est l'approche à la fois spirituelle et éthique d'être en solidarité avec le vivant et dans ce respect de l'être humain et de son environnement. C'est ce que vous enseignez à vos disciples, Abdelhafid Benchouk?
Bien sûr. Tous les gens qui viennent à la maison soufie sont reçus et sont touchés par la manière dont ils sont reçus par les disciples de la voie. Ils sont tous vraiment d'une bienveillance extraordinaire, mais ils ne se forcent pas, je tiens à le dire. Mais il y a autre chose dont je voulais parler aussi, c'est que là, on est dans la réalisation, j'allais dire, de notre humanité horizontale. Et là, je vais employer volontairement le symbolisme de la croix. Il y a aussi une dimension verticale. C'est très bien d'être bien avec tous les êtres humains, d'être bon avec tous les êtres humains. Et d'ailleurs, quand on part au pèlerinage, vous savez qu'il est nécessaire d'aller demander pardon à tous ceux avec qui on aurait un problème ou un différend. Et donc, c'est faire un avec l'humanité. Mais l'être humain n'a pas seulement cette vocation. Ça, c'est le début de son cheminement spirituel. Quand il a fait un avec l'humanité, il a aussi une autre mission, c'est celle de voyager vers son Seigneur, vers la réalité divine. Et c'est aussi quelque chose qui est inscrit en nous, et nous allons le chercher à la mesure de nos faibles capacités, bien sûr. Et là, on va entamer un voyage vertical aussi. Donc, il est nécessaire de rappeler que la spiritualité n'est pas seulement de faire le fait de faire un avec l'humanité, mais c'est un préalable à la véritable spiritualité.
Oui, Abdelhafid Benchouk, je vous écoute vraiment avec beaucoup d'intérêt. Ce que vous dites là paraît comme une évidence, ou en tout cas une propédeutique, une préparation au fait d'être connecté, si je puis dire, ou relié dans cette dimension verticale. Cela est pour les hommes et les femmes de foi qui croient en un Dieu un, clément et miséricordieux. Mais comme je suis à titre personnel scrupuleusement respectueux de la conscience des hommes qui reste sanctuarisée et inviolable, et ceux qui ne répondent pas présents à cet appel, que faire ? L'idée de les aimer demeure par-delà leur appartenance ou pas à une tradition religieuse monothéiste.
L'idée de les aimer, c'est ce qu'a fait le Seigneur lui-même en les créant. Donc comment pourrait-on, nous, ne pas les aimer ?
Donc quel est le symbolisme finalement de la rétribution, de la réprobation du paradis, de l'enfer dans l'enseignement soufi ?
Vous touchez là des points cruciaux qui vont m'engager, pas ad vitam, mais presque. Les états infernaux et les états paradisiaques, je vais vous dire quelque chose. Il y a quelques jours, sur Facebook, j'ai partagé un post pour revenir un petit peu...
C'est dire qu'un maître soufi utilise aussi les moyens contemporains de son existence.
J'ai partagé un petit post, et ce post, qu'est-ce que c'était ? C'était un échange avec un disciple. Ce disciple, qu'est-ce qu'il m'a dit ? Il m'a dit, c'est curieux, depuis que je suis dans la voie soufie, je ne pense plus ni au paradis ni à l'enfer, je pense seulement à la présence divine et à l'amour du prophète. Et un autre disciple qui lui répond, c'est normal, tu es déjà au paradis.
Donc, l'idée, c'est de revoir tout ce symbolisme qui peut-être avait sa pertinence à un moment donné de l'histoire, dans une approche exotérique, mais pour ce qui concerne l'enseignement ésotérique et intérieur, ce n'est pas ça qui doit être mis en avant.
René Guénon est très clair là-dessus, puisqu'il dit sans ambiguïté que la délivrance peut être atteinte dès ce monde. Donc l'être humain, ils sont rares ceux qui atteignent la délivrance dès ce monde, mais cette délivrance de la dualité, si j'ose dire, ou des chaînes...
Des contingences de la vie quotidienne.
Donc elle peut être atteinte dès ce monde. Mais cela n'empêche pas à celui qui a réalisé cet état primordial ou de complétude, ou je ne sais plus quel terme vous avez employé par rapport au grec qui était magnifique.
On va dire l'homme parfait selon la terminologie classique.
L'insan al-kamil, tout à fait, l'homme parfait. Celui-là, ça ne l'empêche pas de revenir vers les créatures pour leur donner chacun en fonction de sa demande. Et c'est ça la particularité du soufisme, c'est qu'il ne va pas aller frapper à la porte des gens de manière inconsidérée en les secouant, en quelque sorte, mais qu'il va donner un enseignement de manière circonstancielle selon les demandes et selon les endroits et selon les personnes qui font ces demandes. Donc il n'y a aucun prosélytisme, et c'est ça même, je dirais, l'essence même de la sagesse. C'est de savoir, à chaque moment, donner ce qui est dû.
Et de le faire, je le lis dans votre ouvrage, pour revenir au titre « Le langage du cœur », un langage du cœur, s'il devait être articulé et produit par le son, il faut qu'il soit doux, donc on ne crie jamais, on ne hausse jamais le ton.
Et même, je dirais plus, c'est que si on constate que la parole n'est pas suffisante, alors là, on passe à la musique. Et la musique a une grande importance dans le soufisme. Et tous les arts ont une grande importance dans le soufisme. Et d'ailleurs, je pense même que nombre de monuments architecturaux du monde islamique, je pense à l'Alhambra, je pense à Fès, je pense au Taj Mahal, sont inspirés par des maîtres soufis.
Nous sommes sur France Culture dans l'émission Questions d'Islam. Aujourd'hui, l'émission se veut d'une facture spirituelle avec un maître soufi, Abdelhafid Benchouk. Merci d'être venu nous parler notamment de la maison soufie que vous dirigez, qui se veut comme un espace de rencontre et d'échange et d'accueil, de générosité aussi. Et vous nous parlez de votre ouvrage édité chez Hachette, Le langage du cœur. Comment Abdelhafid Benchouk, dans votre enseignement, vous allez éduquer cette jeunesse qui est en recherche, qui est peut-être avide d'une prise en charge morale, spirituelle, c'est par l'exemple ou par l'enseignement directif?
C'est plus par l'exemple. Notre maître nous commandait jamais, ne nous commandait jamais. Même quand il voulait demander quelque chose, il dit « Quelqu'un voudrait-il ouvrir la fenêtre ?» Il ne disait jamais « Va ouvrir la fenêtre ».
Ou peut-être qu'il va ouvrir lui-même la fenêtre. C'est lorsqu'il est dans cette situation d'être empêché qu'il présente les choses comme ça sous forme de prière.
Donc l'exemple est vraiment le point central qui permet d'éduquer les gens. On ne peut pas éduquer si on n'est pas soi-même exemple, malheureusement.
Abdelhafid Benchouk.
Donc.
Oui, je vous en prie.
Excusez-moi. Donc, si on ne réalise pas soi-même, on dit soi-même les qualités dont on parle, on ne peut pas en parler. On dit dans la voix Soufi Naqshbandi que tu ne peux pas donner un conseil que toi-même tu ne suis pas. Et donc cela, ça nous restreint énormément à essayer d'être meilleur soi-même déjà en tant que exemple, puisqu'on est pris par exemple comme exemple, j'allais dire malgré soi, parce que ce n'est pas vraiment un choix, c'est quelque chose qui nous a été imposé. Et en même temps, on doit donner des conseils, puisque les gens demandent des conseils aussi, régulièrement, avec le plus grand détachement possible, et en même temps, de permettre à chacun de trouver la réponse en soi.
C'est le fameux aphorisme qui dit « Toute l'activité religieuse consiste en un conseil doux qu'on donne à quelqu'un qui l'a demandé, parce qu'on ne vient pas lui donner des avis judicieux alors qu'il ne les a pas demandés. » Abdelhafid Benchouk, je ne veux pas apparaître comme un homme sceptique, mais il m'a été donné dans ma maigre expérience de vie de rencontrer certains soufis ou se présentant comme tels, mais à l'ego démesuré. Donc d'aucuns disent que dans le domaine de la spiritualité, s'il y a lieu d'avoir une certaine distance, c'est par rapport à ceux qui hypertrophie leur ego dans l'exercice spirituel. Comment leur enseignez-vous une autre manière de l'atrophier?
Vous savez, les gens, quand ils rentrent dans la voie soufie, parfois, ils imaginent qu'ils vont trouver que des saints et des saintes.
Alors qu'en réalité, ce sont des hommes et des femmes.
Alors qu'ils vont trouver des gens qui sont exactement comme eux, qui ont des défauts, des qualités, mais qui essayent. Sincèrement. Et donc, il faut savoir que déjà, un environnement soufi va être comme un microcosme qui reproduit ce qui se passe dans le monde, dans le macrocosme. Et on va avoir toutes sortes de personnalités. ces personnalités qui sont, qu'on peut décrier, quel rôle jouent-elles? Et pourquoi parfois les maîtres soufis ne les répriment pas? Ces personnalités vont jouer aussi le rôle de voile. Et c'est notre...
Ou peut-être de dévoiler la nature profonde de l'homme.
Et de, oui, de voile et de dévoiler, exactement. Un double, une double... On peut comprendre deux choses en les voyant, effectivement. Voir ce qui ne nous plairait pas d'être et aussi tester notre sincérité, puisque ces cas particuliers de gens qui vont vous dégoûter, en quelque sorte, excusez-moi du terme, de la voix, et c'est arrivé déjà, c'est pour cela que j'emploie ce mot-là, qui est un peu fort, si vous avez une fermeté dans votre intention, dans l'intention du cheminement spirituel, ces gens-là ne vont pas vous empêcher de cheminer. Et c'est à nous de nous poser la question, en rencontrant ces gens-là, est-ce que cela me suffit pour ne plus m'intéresser du tout à la voie spirituelle, ou est-ce que, comme vous le disiez, c'est surtout ça qu'il ne faut pas être, et est-ce que je ne dois pas être miséricordieux? Parce que souvent, les gens qui sont dans cet état-là, c'est eux qui en souffrent les premiers. Et donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va dire, ah ben la voix, ça ne vaut rien? Non. On va dire, on va faire une prière pour cette personne.
Sans que ça, pas, que ceci donne lieu à une sorte de commisération ou une sorte de... je ne trouve pas d'autre mot que le fait d'être snobinard vis-à-vis de celui pour lequel on prie afin qu'il s'amende. Je n'ai pas entendu ça dans votre bouche et vous ne l'avez absolument pas dit. C'est moi qui le mets en avant. Abdelhafid Benchouk, j'ai entendu dans vos propos tout à l'heure que la tradition soufie, la voie soufie, le soufisme est au cœur de la... tradition religieuse islamique, c'est la mystique et c'est l'antidote à toutes les dérives radicales, meurtrières, ces idéologies mortifères qui prennent en otage la religion islamique. Et non sans raison, nous sommes quelques-uns à voir qu'il y a des accoutrements, des comportements inacceptables quant à la visibilité de la pratique cultuelle islamique, que ce soit en France ou de par le monde. Est-ce que aussi du côté soufi, il y a une nécessité de, pardon pour le terme, il n'est pas dépréciatif dans ma bouche, absolument pas, mais il y a une sorte de folklore, ou est-ce que le plus important, c'est ce qui se passe à l'intérieur? Il m'a été donné de voir quelques soufis avec des habits bien particuliers. Or, il m'avait semblé qu'il y a un aphorisme qui dit que le véritable aspirant qui est dans la voie, c'est celui qui se promène incognito dans la ville, dans les souks et les marchés.
Je dirais qu'il n'y a pas de règle, puisque si on établit une règle, c'est déjà qu'on veut faire des soldats qui sont tous avec le même accoutrement. Et donc, dans le soufisme, il n'y a pas de règle vestimentaire particulière, si ce n'est d'être en accord avec son être intérieur. Si on juge nécessaire et de se revêtir d'une longue robe et de marcher avec, autant le faire avec beauté. Et le problème est plutôt là, je dirais. C'est d'être en harmonie, que les vêtements que l'on porte soient harmonieux. Et vous savez, j'ai une petite anecdote à vous raconter. Il y a bien longtemps de ça, c'était l'hiver et je portais une djellaba. Et je devais aller dans une administration. Et mon épouse me dit, mais tu vas pas aller dans une administration avec ta djellaba, même si t'as froid, on est en France, et etc.
Et madame, votre épouse a juste raison de penser qu'il vaut mieux peut-être mettre un costume et une cravate.
Tout à fait. Et donc, je vais dans cette administration et je suis reçu. Et la personne qui est en face de moi, qu'est-ce qu'elle me dit? Elle est magnifique, votre djellaba. Donc, ça corrobore le fait que cela dépend avec quelle intention et est-ce que c'est en harmonie avec notre être ou pas? Donc effectivement, si on veut montrer quelque chose, là c'est répréhensible. Mais si on, naturellement, comme dans certains pays, on porte certains... Là j'étais au Maroc récemment, il y a des gens dans la montagne qui portent des burnous ou des djellabas. Il fait très froid, c'est leur habit habituel. Effectivement... C'est un peu ostentatoire de se balader dans les rues de Paris avec une djellaba. Mais si on s'habitue...
Parce qu'à Rome, on vit comme à Rome.
Tout à fait. Après, il y a autre chose. Il y a le fait que le vêtement a quand même une influence sur l'âme. Donc, de bien choisir ses vêtements, c'est quelque chose de haute importance. Et Titus Burckhardt le rappelait dans son ouvrage « L'art de l'islam », que le mendiant dans le monde traditionnel islamique qui revêtait une djellaba, même qui était de haillons, gardait une espèce, une superbe et une dignité dans ses vêtements. Donc, il ne faudrait pas pousser les uns ou les autres à se vêtir de telle ou telle manière. Mais je vous le concède, j'ai moi-même constaté qu'il y avait du folklore parfois.
Oui, encore une fois, le mot n'était pas dépréciatif dans ma bouche. Nous arrivons, nous approchons même du terme de l'émission. Un dernier mot, si vous voulez bien, Abdelhafid Benchouk, de l'importance de l'esthétique, de la beauté, de l'art qui accompagne l'élévation spirituelle.
Vous savez, le monde soufi et les soufis ont irrigué la pensée de l'islam pendant des siècles. Et pendant ces siècles-là, on constate que les productions artistiques étaient extraordinaires, aussi bien au niveau de la musique, de la calligraphie, de l'architecture. Et que constate-t-on? Que depuis le royaume Wahhabi a vu le jour, malheureusement, toutes les tombes, pour donner un exemple, qui sont à Médine, à côté de la tombe du prophète, ont été rasées, alors que c'était des joyaux architecturaux et des jalons historiques pour ceux et celles qui visitent ces endroits-là. L'esthétique, elle est une expression de la beauté divine. Si on n'a pas de sensibilité artistique, esthétique, je suis désolé de le dire, on n'arrive pas à voir la beauté divine.
Nous finissons avec cela, Abdelhafid Benchouk. Merci infiniment d'être venu nous instruire à propos du soufisme, du langage du cœur, de la douceur qui en émane. Chers amis auditeurs, c'était Question d'Islam. Vous retrouverez toutes les références sur le site franceculture.fr. L'attaché d'émission est Daphné Abkral. La prise de son a été assurée aujourd'hui par Bernard Laniel. La réalisation est assumée par l'ami Franklina.
مسجداً.